Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Encore une magnifique émission, je vous l'annonce. Eh ben oui, c'est la dernière semaine de l'année. Donc on va profiter de vous pendant 2 heures. On va se régaler vraiment encore à refaire l'actu. Beaucoup d'actu aujourd'hui. Et surtout, comme tous les jours, vous en avez l'habitude dans Roten sans flamme, une équipe top autour de moi. J'ai de la chance d'avoir Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît.
Ah bah écoute, ça va. Je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux de Roten sans flamme le pull de Jérôme. Oh,
qu'est-ce voilà. qu'il a mon pull.
C'est un style particulier. Ça ne va pas à tout le monde, mais écoute, toi, ça ne va plutôt
j'aime
pas.
Bien, bien. J'aime bien.
Voilà.
Bah, de toute façon, je l'ai mis, donc c'est que j'aime bien.
Ouais, voilà. Ça irait bien, Pascal.
C'est que ma femme aime bien.
Ouais, voilà.
Bon, on est avec Pascal Olmeta. Salut Pascal.
Adieu les amis.
Ah, Pascal.
Benoît. Oui, alors, très très bien.
Tu finis
très,
bien très l'année bien. Tout va bien.
Écoute, je m'inquiète un peu parce que Bastia, ils sont sous l'eau. Beaucoup de personnes sont inondées, des magasins, des appartements.
Ah oui.
Ça m'inquiète parce qu'à Ajaccio, on n'a pas la pluie qu'ils ont et j'espère que ça va aller aussi bien Bastia qu'ailleurs.
Ah bah on les embrasse, t'as raison de le dire, on n'était pas au courant, donc bon courage à tous.
Et une pensée pour nos agriculteurs.
On pense à vous.
Et bah, le message est passé.
Ouais, on est avec. Ah bah il y en a un qui est proche quand même. Il a jamais joué au Sporting, mais il l'aime.
Ah, il est lié à la
Sporting
quand
Club
même.
De Bastia, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonjour voilà. Messieurs, vous voyez, il n'y a pas que les malheureux habitants qui sont sous l'eau, le Sporting aussi.
Ah, oui.
Le Sporting, là,
ils ont galère.
Ils ont condamné celui qui a tiré le fumigène.
Sur les enfants, ouais, ça aussi. Alors, ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, un match de jeunes qui a été émaillé d'incidents avec des joueurs Bastiais touchés. Ils ont retrouvé.
C'est contre Mougin, ça. Hein.
Exactement, contre Mougin.
Mais c'était à Mougin. Hein.
C'était à Mougin.
Ouais,
rien à voir.
Attention, ce n'était pas des fumigènes. C'était des.
Des bombes agricoles, je crois. Des jets de feu d'artifice. Jets de feu d'artifice pendant la Coupe de Gambardella. Voilà, chez les 18.
Trois blessés.
Trois jeunes Bastiais ont été blessés.
Quotient, on pense à eux aussi. Intellectuel, la moins davantage.
Ah, moins de zéro, là. On est d'accord.
C'est sûr.
Ah, bon. Alors, Jérôme vous l'a dit, c'est la dernière semaine de l'année 2025 pour Roten sans flamme. Et on sera de retour à la rentrée. Vous aurez les meilleurs moments de Roten sans flamme la semaine prochaine.
Donc, c'est l'heure du bilan.
Ah, bah oui. À 19h, on va lancer les bilans de Roten sans flamme. Bilan de la première partie de saison de Ligue 1. Avec ce soir une spéciale club. Jérôme, Pascal et Jean-Michel ont bossé. Oui, oui, c'est possible. Ils ont travaillé sur leur top club
aussi.
Et leur flop club. Alors, j'ai hâte d'entendre le top et le flop de Pascal Olmeta. Vous allez voir, ça vaut le détour.
Non, mais j'espère que vous Pascal va pas dire top 16. OM. Parce que là, franchement, sinon, on éteint le micro. Hein.
Pour venir participer avec nous à 19h. À 18h45. Allô Jérôme, Nicolas Pelletier avec nous pour nous parler de la condamnation du jour, celle du Paris Saint-Germain.
Ah, oui.
Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros
il y aura des
à Kylian Mbappé par le
J'ai
Conseil des Prud'hommes de Paris, des infos JR25, les infos RMC Sport de Nico Pelletier. Soyez là, on va tout vous expliquer. À 18h30, une spéciale Pascal Olmeta. Le procès de tous ceux qui réclament une concurrence entre les gardiens du Paris Saint-Germain. Là aussi, il y a sujet à débat entre Safonov, Chevalier, Marine.
Ouais, c'est ça.
Ah, peut-être que Pascal est pour de la concurrence, on ne sait pas. Réponse à 18h30.
Comme ça, c'est le bordel. Et l'OM est champion.
Et l'OM est champion.
Papy.
Et puis, vous le savez, on est le 16 décembre. Le jeu de Noël continue sur RMC.
RMC vous offre un fabuleux Noël.
Aujourd'hui, un magnifique cadeau encore.
Ah là, je t'annonce, c'est le plus beau.
Ah, c'est dingue.
Le plus beau cadeau, c'est ce soir.
Vous remportez de l'électroménager.
Pour l'instant, hein, ça sera
soit un robot cuiseur Magimix, soit une cafetière à grains Smeg, soit une cave à vin La Sommelière ou une machine à glace et boissons glacées Ninja. Pour jouer, c'est Noël par SMS au 732-16. Noël. Au 732-16, tentez votre chance, ça vaut le coup des beaux cadeaux à l'approche de Noël. 18h04 sur RMC. Ah là là, beaucoup trop d'émotions pour Jérôme cette année.
Le doublé ! Ça fait 3-0 ! Désiré Doué ! Et la levée de la Ligue des Champions !
Ça fait 42 ans que je suis abonné dans ce club. C'est comme si j'étais joueur. Hein. J'ai l'impression que je l'ai gagné ce soir, la Ligue des Champions. Vraiment.
Dembélé le centre, frappe le but.
Le but de Dembélé.
Je n'en parle même pas parce qu'on en parle.
Mendes face à Vicario, c'est parti, et le but ! Paris remporte un trophée de plus en 2025 !
Alléluia ! Alléluia !
Pour tous ceux qui aiment ce club, qui ont ça dans le cœur, qui aiment le foot tout simplement, tu vois, des émotions on en vit, mais des émotions comme on a vécu ce soir, c'est déjà une chance.
Bouba, ton ami Bouba.
Et Bouba, on l'embrasse.
Et bien sûr. Paris visera donc un sixième trophée cette année, demain soir à Doha. La Coupe intercontinentale. Les Parisiens étaient directement qualifiés pour la finale. Ils vont affronter Flamengo, champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores. Match à suivre en direct, en intégralité sur RMC, dans un Rotten sans flamme spécial demain. Donc le match PSG-Flamengo.
On sera au commentaire.
On sera au commentaire. Le PSG peut devenir le premier club français à remporter cette Coupe.
Encore le premier.
Qui plus est au Qatar. Précisons que sur les 15 dernières années, seule une coupe intercontinentale a échappé à un club européen. On a envoyé la voix du foot au Qatar. Jean-Louis Tour en direct de Doha. Salut Jean-Louis.
Je ne sais pas où il est là. Mais...
Salut tout le monde.
Il est en maillot de bain. Ah, je le vois pas. Ah, il est en maillot de bain, le salopard.
Mais non, il est concentré.
Ça va, Jean-Louis ?
Il pleut.
Il pleut
au Qatar.
Mais non, oui.
Ils n'ont pas vu ça depuis 9 mois.
Mais c'est fou, quand même.
C'est fou. Le maillot de bain, c'est.
Mais laissez-le tranquille.
T'es où ? T'es place Vendôme ? T'es où là ? T'es où ? T'es à la place Vendôme ?
PSG Land, t'es où ?
Non, je suis pas dans les conditions de Jérôme.
D'accord.
Donc non. Mais Jean, tout va bien.
Ah non, Jean-Louis, pas l'hôtel c'était... de merde qu'on avait, au Qatar quand même.
Non. Je sais même pas s'il existe Jérôme, toujours.
Non, ils l'ont.
Est-ce que c'est un vrai enjeu pour les Parisiens, cette Coupe intercontinentale, Jean-Louis, alors ?
En tout cas, ils le disent clairement. Moi, j'étais à Udine pour la Super Coupe d'Europe contre Tottenham en tout début de saison, et j'ai eu l'impression, dans les conférences de presse de veille de match, d'entendre les mêmes discours, notamment chez Luis Enrique, l'entraîneur.
Je pense que c'est une motivation très claire. Marquer l'histoire à Paris, ça a été un objectif la saison dernière, et continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de cette saison. Et chaque finale est différent. Ce sont des matchs particuliers parce que il faut être prêt et attentif pendant tous les matchs. Et on est prêt. Je pense que dans le début du championnat, on a eu des problèmes. Et demain, ce sera difficile parce que Flamengo, ils sont une très bonne équipe et ce sera une finale serrée.
Voilà. Bon, tous les adversaires du PSG, c'est des très bonnes équipes, de toute façon, avec Luis Enrique. Mais il faut quand même voir que pour les Parisiens, c'est quand même un objectif. Il l'a dit, les titres, marquer l'histoire, etc. Il y a aussi un enjeu d'image. Kvaratskhelia a répondu à Arthur Perrault il y a quelques minutes en disant que le PSG à Doha, c'est la maison quand même du PSG. Donc, c'est une atmosphère particulière pour eux. Il y a une obligation aussi de briller dans un match qui va être vu dans le monde entier pour les Parisiens. Mais après, il faut pas se raconter d'histoire non plus. Hein. C'est pas à mettre sur le même plan cette compétition que la Ligue des Champions. Mais pour les Parisiens, ça a quand même une importance.
C'est donc la une de Rotten sans flamme. La Coupe intercontinentale doit-elle être une priorité pour le PSG 32-16 ? Jérôme, est-ce qu'il est important le match de demain soir alors ?
Oui, pour les joueurs. Si t'es à la place des joueurs du PSG, on a été dans un vestiaire avec Jean-Michel et avec Pascal. On a eu la chance de jouer des grandes compétitions, de jouer des finales. Quand tu joues une finale, tu te lèves le matin, tu t'entraînes le matin pour gagner des titres. Tu vois, pour être le plus performant possible. Là, t'as l'occasion sur un match, en effet, de gagner un titre qui est jamais arrivé en France, d'accord, et le premier de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc la Coupe intercontinentale, je pense que quand on a eu la chance de jouer des matchs de Ligue des Champions, ce qui est le cas de Pascal, ce qui est le cas de Jean-Michel et ce qui est mon cas, on rêve de gagner la Ligue des Champions et après, dans un deuxième temps, de gagner la Coupe intercontinentale.
C'est moins un rêve que la Ligue des Champions.
Non, parce que toi, tu vois ça en tant qu'observateur, Benoît. Mais la vérité, c'est que quand t'es acteur, aujourd'hui, le PSG a gagné quasiment toutes les compètes l'année dernière, parce qu'ils ont un état d'esprit de compétiteur hors pair. Ça veut dire que les mecs, ils ne lâchent jamais rien. Ils ont soif de victoire, soif de trophée. Donc, automatiquement, le match de demain, c'est une priorité pour eux. Et tu le vois dans les choix de Luis Enrique. Tu le vois ce week-end. à Metz, t'as vu l'équipe qu'il a mis ? Il a mis beaucoup de jeunes, il a donné beaucoup de temps de jeu pour que certains se reposent, pour être prêts sur le match, cette finale-là à gagner.
Ouais, t'as demain soir.
D'accord, mais si t'as pas ce match-là le mercredi, la finale intercontinentale, je peux te dire qu'à Metz, il met des joueurs avec plus d'expérience et plus par rapport à des jeunes. C'est la réalité et c'est comme ça. Et moi, je te le dis parce que ça, c'est mon expérience de joueur qui dit que dans tous les cas, c'est un match hyper important pour eux. Après, si on se met dans la position de l'observateur, du consultant, comme je suis tous les jours à analyser les compètes, les matchs, tellement il y a de matchs, tellement il y a de compétitions, qu'en effet, en termes de médiatisation, mais Jean-Louis il le disait, c'est pas le match de l'année. La preuve, regarde, demain c'est la finale intercontinentale, personne n'en parle. Personne n'en parle. D'accord ? Tu vas en parler demain parce que c'est le seul match. Ou ceux qui font que du foot, mais la plupart, vu qu'en France, on n'est quand même pas un pays du foot par rapport à certains pays, on n'en parle quasiment pas. Et demain, ça va monter un petit peu parce que c'est comme ça, mais c'est pas une attraction, tu vois, c'est pas la finale attendue. Oh là là, il y a un trophée à gagner. Ça, c'est la réalité. Ça a perdu de sa superbe parce qu'on a rajouté des compétitions.
Bah oui.
Et en plus de ça, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain et pour les supporters du PSG, il y a eu cette année la Coupe du Monde des clubs.
Et, voilà.
Et donc, elle n'a pas lieu tous les ans.
Qui a eu lieu où ?
Aux États-Unis.
Oui, mais la Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas eu autre chose à Doha ? Il n'y a pas si longtemps que ça ?
Qu'est-ce qu'il y a eu à
la Coupe du Monde ?
Au Qatar. Bah oui, il y a eu la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu un trophée des champions. Il n'y a pas eu des. Enfin, je ne sais pas. J'ai l'impression, moi, aujourd'hui, que on a tout se passe dans cette région.
Doha. Un trophée Doha, des champions sera en janvier au Koweït, Jean-Michel.
Ouais. Alors oui, enfin, à suivre dans Rotten sans flamme d'ailleurs.
Voilà, on est pas loin quand même. On me semble que c'est, même si je suis pas un grand crack de la géographie, il me semble qu'on est pas loin. On est dans cette région.
Jean-Louis,
là.
Il y a combien de kilomètres entre le Qatar et le Koweït?
Voilà.
Oh, bah là. Je l'ai pas en tête.
Oh, des milliers.
Tu
iras
aux deux, tu devrais savoir quand même.
Non, mais.
Non, bah, il y a 800 kilomètres, quoi. 800 kilomètres.
Voilà, oui, bien sûr. À vue de nez.
Bah, vérifie, tu vois.
À mon avis, il y a 2000.
825, je dirais comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est incroyable, c'est exactement ça.
La question, Benoît, dès lors que.
Dis-lui, douche un peu son enthousiasme, là, Jérôme, il te fait croire que c'est la finale de la Coupe du Monde.
Mais
demain,
quand t'es joueur, automatiquement, il va pas te dire le contraire, Jean-Michel.
Mais dès lors qu'elle existe, après, on peut discuter du timing. C'est sûr qu'elle arrive vraiment comme. Comme un cheveu dans la soupe.
Elle a toujours été à cette période-là, Jean-Michel.
Oui, mais je t'assure que ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas d'enthousiasme, ni même en France, ni peut-être à Doha, je ne sais pas. Il y a des drapeaux du Paris Saint-Germain
c'est
de Flamengo.
C'est la folie, Jean-Louis, à Doha ou pas ?
Jean-Louis ?
Alors, non, ça ne m'a pas sauté aux yeux encore. Après, je suis arrivé il y a peu de temps.
Balle dans le désert, je pense.
C'est surtout la fête nationale du Qatar, là.
Ah, d'accord.
Dans deux jours, c'est la fête nationale.
Énorme. Okay. Pour en terminer, dès lors que le match existe, il est normal que la motivation soit intacte du côté du Paris Saint-Germain.
Bah oui.
C'est normal qu'ils aient envie de gagner cette compétition, d'autant qu'ils étaient les grands favoris de la Coupe du Monde des clubs et qu'ils ne l'ont pas gagné. Donc je pense que.
Mais ils l'ont joué à fond.
Bien qu'ils l'aient joué à fond. Et ils en ont payé un peu les conséquences, d'ailleurs, en début de championnat. On peut discuter, on l'a dit, du timing, on peut discuter de la multiplication, parce que, oui, il y a eu le trophée des champions en France, il y a eu la Super Coupe d'Europe, c'était à Frioul, ça, c'était où
à Oudine.
À Oudine.
À Oudine, c'est ça.
Oui, dans le Frioul.
Et puis, il y a la Coupe. Tu vois que je ne suis pas mauvais en géographie.
Pas mal.
Et je ne vois pas le rapport avec le.
Il y a la Coupe du Monde. Non, mais c'est la multiplication.
Des compétitions. Ben oui.
C'est la multiplication des compétitions.
Bah, la multiplication, Jean-Michel, c'est plus la Coupe du Monde des clubs qui était novatrice parce que le reste, ça a toujours existé.
Non, mais peut-être vous êtes d'une génération autre que la mienne, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique.
Ah oui.
Et c'est beaucoup mieux maintenant, il n'y a pas de souci.
C'est sûr.
Je veux bien. Mais je fais toujours la comparaison avec le ski. Vous étiez au non, mais je t'assure, avec le ski, auparavant, il y avait 8, 10 grands rendez-vous de ski. Non, mais arrêtez des conneries.
C'est trop.
Il y a tu mets pas de ski.
Elle s'est trompée.
Laissez-moi terminer.
Elle s'est trompée de seringue.
Il y avait arrêtez vos conneries. 8 rendez-vous de ski dans une saison. Oui. Avec les femmes, les hommes.
Où,
et tout le monde s'y intéressait. Ouais. Aujourd'hui, je vous assure, je ne m'intéresse plus à cette discipline parce que ça va à droite, ça va à gauche. Un coup, il y a les hommes, un coup, il y a les femmes, un coup, il y a la descente, un coup, il y a le. On s'y intéresse plus. C'est la multiplication. Et j'ai peur que notre ami Gianni Infantino, pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration, j'espère qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de tuer notre football.
Ouais. Bah après, ce match-là, il n'est pas responsable. Ça a toujours existé.
Si en plus, après-midi, il y a ça. Il y a la Coupe du Monde des clubs telle qu'elle a été mise en place, elle n'existait pas.
Non mais Jean-Michel, répond à la question juste.
Est-ce que c'est une priorité pour le PSG?
C'est un match important pour le PSG. Voilà.
J'ai dit dès lors
Benoît
que le match.
Pascal, il va pas dire le contraire.
Il est normal que le Paris Saint-Germain mette tous ses efforts pour le gagner.
Bon, même... Pascal, il est important ce match pour le PSG.
Tu sais comment je m'en cague.
Pour le PSG.
Non, mais pour le PSG.
Moi, j'ai parlé de ski. Il est parlé de toilette, lui. Alors, tu m'as.
Ça y est, c'est fait appuyer sur le bouton. Jérôme, quand je t'entends dire que. Déjà, ça m'a impressionné. Il a parlé français, le coach. Ça, c'est beau.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, il parle de mieux en mieux.
Ça fait 6 mois, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler.
Jérôme, avec les joueurs, et combien ils sont au Paris Saint-Germain en tant que joueur professionnel 42, non ?
Oh non.
Les rugbyman.
Non.
Chaque match, il change d'équipe. À Metz, il a mis
les jeunes.
Là, est-ce que demain il va aligner son équipe
Jean-Louis, d'ailleurs, on a une compo probable. Hein.
On a des infos. Oui, c'est la meilleure équipe possible. Ouais. Vas-y.
Oui, grâce à Arthur Perrault, a priori, c'est ça, c'est la meilleure équipe possible, comme tu dis, Jérôme, avec Chevalier dans les buts, avec Zahir Emery à droite, en l'absence d'Hakimi, Marquinhos, Pachour, défense centrale, Mendes à gauche, Neves, Vitinha, Ruiz au milieu de terrain, et puis devant, Barcola, Doué, qui pourra faire donc sa première titularisation depuis octobre, et Kvaratskhelia, c'est un petit peu tôt, sans doute, pour Ousmane Dembélé.
Même le format n'est pas terrible, il est inégal, vous avez vu le format, c'est-à-dire qu'il y a eu des demi-finales, il y a même eu des tours préliminaires, et le PSG arrive direct en finale.
Mais c'est vrai, t'as vu le format,
ça fait 2 ans que c'est comme ça.
On est d'accord, sauf que avant c'était même les équipes européennes, elles jouaient 2 matchs.
Au moins une demi-finale.
Pourquoi ils la jouent? Ils ont qu'à leur donner direct.
Il y a un match, mais qu'il y ait une logique et une équité là-dedans.
Non, mais après, qu'il y ait une logique aussi, parce que là, franchement, vous me dites, pour l'équilibre, il faut garder une certaine objectivité. L'objectivité, on l'a à travers le niveau européen qui est bien supérieur, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, que tous les autres continents. Alors, ça fait pas plaisir au continent américain, ça fait pas plaisir à l'Asie, à l'Afrique, ce que je veux te dire, c'est que, aujourd'hui, la réalité, c'est que ce match-là, tu peux faire des barrages avec d'autres continents que l'Europe, et l'équipe européenne reste la favorite. Donc forcément, est-ce que ça ressemblait à quelque chose quand il y avait une demi-finale? Moi, je me vois le Real Madrid jouer contre une équipe asiatique,
Jérôme,
et gagner en marchant.
Jérôme, je veux bien que tu considères que, et à juste titre, que le football européen peut se passer des quarts de finale ou des demi-finales, mais dans d'autres compétitions, mon ami Gianni, il n'hésite pas à faire une Coupe du Monde à 48 clubs avec des troisièmes, des meilleurs troisièmes qualifiés. Équipes,
Exactement.
Oui, mais ils ont
Jean-Michel, il y a des matchs qui ne vont servir strictement à rien.
Oui, mais Jean-Michel, ils ont rétabli des choses en donnant l'opportunité à des équipes d'un autre continent que le continent sud-américain de gagner cette Coupe intercontinentale. Parce que je dis pas une bêtise quand je dis ça, mais avant, c'était bien le champion d'Europe. Oui.
avec Jean-Louis, avec
je peux faire un point historique
avec le champion
d'Amérique, avec le champion de d'Amérique du Sud.
C'est ce que t'allais dire, c'était ça. De 1960 à 2004, c'était le vainqueur de la Libertadores contre le vainqueur de la Ligue des Champions. D'abord en aller-retour, puis sur un match sec. Et en 2004, on a voulu développer donc le Mondial des clubs, qui a pris la place de la Coupe intercontinentale. Et quand le Mondial des clubs est devenu le truc magique de Gianni Infantino, on a remis la Coupe intercontinentale pour remettre une fois par an cette espèce de finale pour décréter un champion du monde symbolique. Voilà.
Tiens, accueillons JB.
Je place quand même que Flamengo a battu Chelsea au Mondial des clubs.
Exactement. Hein. Et que Botafogo, de John Textor, avait battu le PSG en match de poule.
Mais au Mondial des clubs, c'est bien Chelsea qui a gagné, non ?
Quelle va être la différence ?
En poule.
Mais tu peux gérer, tu peux perdre des matchs, Jean-Louis, en poule. Mais le gagnant, c'est une équipe européenne.
C'est pour dire que quand même...
C'est pas des peintres pour autant. C'est parce que je suis pas en train de dire ça. Je dis juste qu'il y a une différence quand même de niveau entre les équipes, la meilleure équipe européenne.
Le meilleur, le champion du monde des clubs ou le vainqueur
Très bonne question. Ça, c'est une excellente question.
Déjà, celui qui a gagné la Coupe du monde des clubs, c'est pas forcément la meilleure équipe d'Europe. Hein, c'est Chelsea.
Mais qui sera le meilleur club au monde ? Est-ce que ce sera Chelsea ou le PSG si le PSG gagne demain ?
C'est le PSG.
Tiens, JB, supporter parisien.
À mon avis, Jérôme, Gianni Infantino va avoir une bonne idée.
Il y aura peut-être une finale entre Chelsea et le PSG.
La belle. On fera la belle
à Washington.
Mais arrête, je voulais donner. C'était une info de GR25, ça.
JB est là, Jérôme, ce soir.
Salut JB.
Tous.
Bienvenue JB. Bon alors, écoute, est-ce que ce match, déjà, tu vas le suivre demain et est-ce que tu sens une excitation particulière ?
Oui, moi je vais le regarder. Alors, je souscris à beaucoup de choses que vous avez dites tout à l'heure. Je suis plus ou moins d'accord avec les uns et les autres. Ce match, c'est un trophée. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la multiplication des compétitions. Ça devient n'importe quoi. Mais il y a un trophée à aller chercher. C'est pas tous les jours qu'un club français peut aller gagner ce genre de trophée. Donc moi, bien évidemment, je vais regarder le match. Mais aujourd'hui, franchement, c'est vrai que ça ressemble vraiment à rien. C'est un match qui est pour faire un match. Il y en a bien assez dans la saison et je suis tout à fait d'accord avec vous. Pascal disait quelque chose tout à l'heure en disant non, on s'en fout. Ben Pascal, il s'en fout parce que son club le joue pas. Maintenant, la question que je pose à Pascal, c'est le trophée des champions. Le trophée des champions, tu vas le regarder, Pascal ?
C'est un trophée ou pas, Pascal ?
C'est pas un trophée, le trophée des champions de quoi ?
Mais attends, et peut-être que lui, il en fait un objectif, Pascal.
Écoutez, les gars, parlez entre vous, laissez-moi tranquille, je m'en.
Bon, c'est
un bel argument.
Je ne connais pas. Okay. Mais déconnez pas.
Pas de gros mots, Pascal. Pas trop de gros mots.
Pardon. Je pensais qu'on était entre amis.
JB, juste une question. Est-ce que si Paris perd demain, tu seras déçu ou est-ce que tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est un titre qui échappe et
Oui, de la même façon que j'ai été déçu qu'on perde en finale contre Chelsea parce que même si la saison était à rallonge, comme je disais tout à l'heure, ce sont des compétitions, il y a des trophées, il y a une galerie de trophées à remplir. Je pars du principe que quand on est supporter d'un club, on est toujours content quand un autre club veut gagner des trophées. Moi, je pars de ce principe-là. On a mangé notre pain noir pendant des années au PSG. On a un PSG qui est maintenant capable de gagner. Encore une fois, il faut aussi se donner l'idée de la légitimité des compétitions. Regarde, il y a un truc qui existe tous les ans qui se passe à Monaco qui s'appelle la Super Coupe d'Europe. Bon,
c'est plus à Monaco maintenant.
C'était à Monaco
pendant des années.
C'était bien à Monaco.
Aujourd'hui, c'est le vainqueur de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Mais un club ne peut pas gagner ces deux compétitions. Mais par rapport à un trophée des champions aujourd'hui qui ne représente rien parce qu'il n'y a qu'un seul champion, il n'y a pas lieu de le jouer.
JB, ça serait 6 titres dans une saison. Bravo. Après, je parle en tant qu'ancien footballeur. Pas tout le monde pourra le faire, peut le faire. Dans une année, faire ce que Paris a fait, bravo.
Non, mais c'est vrai, Pascal.
Et on sera les premiers à critiquer si Paris ne gagne pas.
JB, tu as totalement raison. Et c'est pour ça que je défendais ce match de demain. Parce que quand tu te sens proche de ce club-là ou que tu es acteur, les joueurs, les dirigeants et tout ça, bien sûr que c'est une priorité. C'est un trophée à gagner.
Bah, c'est un trophée que tu vas gagner en plus.
Je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Et encore une fois, je rappelle, et Pascal, il vient de le dire, c'est vrai qu'on a eu la chance de jouer à ce niveau-là, donc c'est pas donné à tout le monde. Et il faut aussi se rappeler, avoir de la mémoire.
Moi, j'ai jamais disputé de finale de
Intercom. Non, mais t'as disputé des grands matchs, Jean-Michel. Et
oui,
si
failli, et
si t'avais gagné à cause des poteaux carrés, peut-être que tu l'aurais joué cette finale de Coupe Intercontinentale.
Il y en a qui ont perdu pour d'autres raisons.
Nous, à cause d'un entraîneur qui n'était pas à la hauteur ce jour-là, mais c'est pas grave.
Après, Ludo Juli s'est blessé, ça vous a flingué.
Oui, c'est oui. Après, mauvais choix, mais bon, c'est pas grave. Derrière,
j'ai gagné la Gambardella.
Et t'as joué la Super Coupe de la Gambardella.
Mais pour te dire, tu sais, j'en parlais avec Benoît tout à l'heure. Moi, l'année en 2004, on fait la finale de la Ligue des Champions. C'est sûr que si on gagne, on a l'opportunité de jouer cette Coupe Intercontinentale. Ben, je te promets que dans la réflexion des transferts, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, tous les joueurs offensifs, on est partis, et ben, c'était aussi une réflexion qu'on pouvait avoir. Si on la gagnait, est-ce qu'on restait encore pour pouvoir s'offrir la Coupe Intercontinentale?
Donc,
comme quoi les joueurs. Alors après, attention, il y a une évolution aujourd'hui. Il y a tellement de compètes que j'imagine que par moment, ils sont obligés de faire des choix.
Et vous l'avez gagné?
Mais, je l'ai gagné à la PlayStation.
Allez, merci à Julien qui est venu au 32-16.
Vous m'avez convaincu. Allez, Paris. Paris.
Voilà, magnifique. Bravo, Pascal.
C'est bon. Il s'est fait bouger par JB. Ça y est,
Jean-Louis, demain, on est ensemble. Demain, Rotten sans flamme spécial PSG Flamengo.
Jean-Lou,
incroyable à Doha avec
Jean-Lou. On sera là pour t'accompagner, pour te rendre encore plus fort.
Ta voix, Jérôme, sur un titre.
C'est sûr, c'est sûr. Voilà,
Jean-Louis,
il faut profiter.
Tu viens quand?
Alors, tu viens quand, Jean-Louis?
Qu'est-ce qu'il y a? Je viens bientôt. Bientôt.
Merci, Jean-Louis. Bonne soirée.
Merci, Jean-Louis.
Dans un instant, la suite de Rotten sans flamme, le procès de tous ceux qui réclament une concurrence entre les gardiens du Paris Saint-Germain. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
8h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. La deuxième demi-heure, c'est maintenant avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet et avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, on reçoit Nico Pelletier pour nous donner les dernières infos dans le Allo Jérôme.
Le PSG condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Ah. Les explications de Nico.
Plus vraiment les sommes demandées par les Mbappé.
Cette journée qui s'est passée au Conseil des Prud'hommes. Bon, on aura toutes les infos à 18h40.
C'est fou, hein, ils ont réclamé harcèlement, tout ça.
On verra. On fera le point sur ce dossier.
Ah non, mais c'est même.
Un autre procès dans Rotten sans flamme, c'est parti.
RMC, Rotten sans flamme.
Être gardien, c'est plus que d'arrêter des ballons. C'est un travail technique.
Ah bon,
beaucoup pensent connaître
les
gardiens de but. Qu'est-ce que tu dis, Rotten?
Non, mais je
croyais qu'il y avait une faute d'orthographe sur le papier.
À caguer à la ville. Qu'est-ce qu'il peut comprendre, lui, dans les gardiens?
Elle était bonne, Pascal.
Le procès de Rotten sans flamme.
C'était excellent.
Le pauvre Pascal, il rigole encore. Et tout, c'était dingue.
Ils font équipe, là, procès, ils font équipe.
C'était fou. Alors, justement, écoute, faut-il relancer la concurrence au poste de gardien au PSG? Matvei Safonov, le remplaçant de Lucas Chevalier, vient d'enchaîner 3 titularisations, 3 prestations assez convaincantes, 2 clean sheets face à Bilbao et Rennes. Il n'est pas vraiment coupable sur les buts qui ont été encaissés à Metz le week-end dernier, il en a encaissé 2. Lucas Chevalier, le titulaire habituel, se remet doucement de douleur à la cheville. C'était suite au tac de Lamine Camara lors de Monaco PSG, souvenez-vous. Il a du mal pour l'instant à confirmer son potentiel, même si il a été recruté à prix d'or cet été, 55 millions d'euros. Il devrait démarrer, c'est les infos des RMC Sport, demain soir, donc face à Flamengo, en finale de la Coupe Intercontinentale. Ouvrons le procès de tous ceux qui réclament une concurrence au poste de gardien au PSG. 2 procureurs ce soir. Pascal Olmeta, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Ah oui.
Bonsoir.
L'avocat, justement, de la concurrence, c'est Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Le verdict sera rendu par un supporter parisien au 32-16, c'est Aubin qui nous rejoint. Salut Aubin.
Salut les gars, honoré d'être avec vous.
Salut Aubin.
Ravi de t'accueillir. Et donner la parole.
Ça sera encore mieux si tu me fais gagner.
La parole au spécialiste du poste, Pascal Olmeta. Alors, Pascal.
Bah, écoutez, moi j'ai toujours appris que les gardiens, qu'il n'y en a qu'un. Ensuite, dans une équipe. Il y a le deuxième qui aide.
Ah, bah donc il n'y en a plus qu'un, alors.
Non.
Deux, déjà.
Et après, tu as un troisième.
Et tais-toi, toi.
Nous, on part toujours.
Laissez-le.
Il y a un troisième.
Il y a des concurrences. Non,
donc il y en a trois.
Quand ils ont été chercher Chevalier, c'est que pour eux, c'était le meilleur à ce poste-là du moment. En plus, un jeune gardien de but très, très talentueux, français. Mmh. Et il n'y a pas de question à se poser. Quand ils travaillent ensemble, il y a un coach des gardiens qui s'appuie sur son équipe, qui fait travailler ses gardiens de but dans la même ambiance, toujours avec le bon état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a le numéro 1. Mais si le numéro 2, eh bien, c'est au jamais, il est deux fois, il devient, en travaillant deux fois plus fort, là, on peut comprendre les choses. Mais il ne faut pas mettre de la concurrence quand on sait qu'il y a ce numéro 1 qui est chevalier, numéro 2 et numéro 3. Et voilà. Et ça, c'est la force des grandes équipes, aussi bien qu'à Paris, qu'à Marseille, on voit comment ça se passe. À Marseille, on ne parle jamais de concurrence. Mais Paris, comme c'est... Voilà, il faut en parler, il faut dire, il faut taper sur Chevalier parce qu'il a fait un tweet, parce qu'une chose et l'autre. Non, mais au contraire, il faut l'épauler. Là, vu la blessure, si on peut dire, elle aurait été peut-être plus grave si... heureusement que c'est comme ça, il n'a pas pu jouer ces matchs-là. Voilà, le numéro 2, Savanov, eh bien, il a fait de bonnes choses, mais il ne peut pas concurrencer Chevalier. Il est au-dessus, ce n'est pas possible.
Bon, voilà.
Pour moi, laissez travailler le coach des gardiens avec les gardiens de but et voilà, je vous le répète.
Jean-Michel.
Comme disait Sir Alex Ferguson.
Ouais, moi, je suis pas un spécialiste.
Qu'est-ce qu'il disait? Attends, qu'est-ce qu'il disait Sir Alex Ferguson? Parce qu'on n'a pas la conclusion, la chute de cette plaidoirie. Qu'est-ce qu'il disait?
Sir Alex, la première fois où on en a discuté, m'a dit, est-ce que tu peux aller me chercher Fabien Barthez à Monaco? Parce que ça va être mon numéro 1. Et mon numéro 2.
Il y avait deux gardiens, quand même.
Non, mais et mon numéro 2 et 3 sauront leur place qu'ils ont
à c'est les coiffeurs, dans le
club. De travailler, ils te couperont tes journées. Non, mais de travailler dans la bonne voilà. Entente.
Il faut que les choses soient claires pour qu'il y ait une bonne entente entre tout le monde. Quoi.
Toujours.
Ils s'entraînent pour ne pas jouer. Quoi.
Jean-Michel.
Tout à fait.
Non, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Je parle par expérience. Dans ma carrière, je n'ai connu que des gardiens de but qui étaient numéro un, très loin devant leur remplaçant.
Ouais. Ils étaient
tous les trois internationaux et le remplaçant était là éventuellement au cas où il y avait une indisponibilité due à une blessure. Et je pensais que le Paris Saint-Germain tirerait la leçon de ce qui s'était passé auparavant avec Keylor Navas
Trappe, Areola.
Non, le dernier qui est parti.
Baratelli.
Donnarumma.
Joël Batz.
Et Donnarumma.
Bah oui.
Ouais, je vous étais en train de me. Et Donnarumma, qui sortait quand même d'un titre de meilleur gardien de l'Euro, a pas fait une grande carrière à Paris. On se rappelle de ces 6 derniers mois où il a été formidable. Où finalement il n'avait pas trop de concurrence parce qu'il avait mis les choses au point, mais c'est à ce moment-là qu'il a été le meilleur. Et je pense que le petit chevalier, sans doute parce qu'il est un peu plus jeune, un peu plus tendre, au départ, plus la pression qu'il y a quand tu viens au Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'un des clubs où là il faut être clair et net en ce qui concerne le poste de gardien de but. Et je pense qu'il a des circonstances atténuantes par rapport à ses performances parce qu'il est mis en concurrence immédiatement. Alors, je ne dis pas que ça. Et puis, je sais ce qu'il va me dire.
Jérôme. On ne dévoile pas les plaidoiries des autres. Hein.
Comment tu peux savoir?
Non, mais je sais. Oh, je sais que Jérôme va me dire. Safonov, oui. Mais c'est un très bon gardien. Mais il est certain, Jérôme, que quand tu es au Paris Saint-Germain, il faut que tu aies des remplaçants qui soient souvent très près des titulaires. Mais ils ne le sont pas. Alors. Laissons-le travailler tranquillement. Comme Mason Greenwood à qui il faut foutre la paix à Marseille pour qu'il marque des buts décisifs. Foutons la paix à Chevalier.
D'accord.
Jérôme, parole à la défense. Alors.
Non, mais en fait, moi, je suis pas allé au pauvre. Avec ce que vous avez fait, je pense pas. Mais pour aller dans le sens de Jean-Michel et de Pascal. En effet, il y a une hiérarchie, c'est très clair. Du moins, quand tu t'investis autant d'argent sur un gardien en début de saison, bien sûr que Chevalier, il est là pour jouer. Mais encore une fois, il y a un entraîneur aujourd'hui et c'est pas le foot d'il y a 30 ou 40 ans. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, comme l'a dit Jean-Michel, il y avait un décalage, un gros décalage entre le numéro 1 et le numéro 2 et le numéro 3. Safodov, j'ai l'impression que les gens ont oublié qu'il a été recruté plus de 20 millions d'euros en Russie. Oui, d'accord. L'année dernière, il a été en début de saison limite dans la concurrence, un petit peu là, tu vois, lancé parce que il a fait quelques matchs. Malheureusement pour lui, ça s'est mal passé à Munich et derrière, on l'a quasiment plus vu.
C'est vrai.
Sauf en Coupe de France où il a conservé les cages du Paris Saint-Germain sur la Coupe de France jusqu'à la finale en gagnant ce trophée. Mmh. Donc, il a aussi le mérite d'avoir joué cette compète et d'avoir gagné cette compète. Il a le mérite aussi d'avoir bien remplacé Chevalier depuis que Chevalier est blessé. Alors, blessure au départ à la cheville, il n'y a pas de problème. Après, une petite blessure aussi au moral, au mental, ça on le dit, et il a mis du temps à revenir. Le problème, c'est qu'en mettant du temps, Safonov, il a enchaîné 2-3 matchs de très bon niveau, parce que franchement, il a été très bon, il a été performant, et je suis persuadé, moi, que dans la tête de Luis Enrique, qui lui, à court terme, veut déjà gagner, avoir une équipe très forte et qui progresse, il a toujours protégé Chevalier, il n'y a pas de souci. Mais je pense que les derniers matchs de Chevalier, plus sa blessure, le fait qu'ils mettent du temps à revenir sur le terrain, où il le voit quotidiennement, dans la tête, peut-être qu'il se cherche un
plus
petit peu.
Plus les bons matchs de Safonov.
Plus les bons matchs de Safonov. Il ne faut pas minimiser ces matchs-là. Je pense que dans la tête de Luis Enrique, aujourd'hui, je ne dis pas que les cartes sont redistribuées, mais Safonov s'est rapproché un peu dans la hiérarchie.
Il joue gros demain pour toi, Lucas Chevalier ?
Lucas Chevalier, moi, il faut lui laisser du temps. C'est un jeune gardien, là, Pascal a raison. Moi, j'étais le premier à militer l'année dernière en disant si Donnarumma il prolonge pas, il faut le prendre. Mmh. Il faut le prendre parce que c'est un jeune français. D'accord, et c'est important d'avoir les meilleurs Français au Paris Saint-Germain dans le meilleur club de France. Donc ils ont l'occasion, ils ont mis le prix pour le faire jouer. Le seul souci, c'est que dans le football, t'as pas le temps, et encore moins quand t'es dans l'équipe qui est championne d'Europe et qui doit tout gagner. Ouais. Donc c'est pas définitif. Si jamais Safonov joue un peu plus de matchs que prévu prochainement, parce que il est meilleur, parce qu'il y a un temps d'adaptation qui est un peu plus long pour Chevalier, il faudra pas être définitif en disant ça y est, Chevalier, il y arrivera jamais. Je pense que il faut pas juste minimiser les perfs et la qualité de Safonov, parce qu'il a montré des réelles qualités et il peut bousculer un petit peu à court terme la hiérarchie.
Ouais, d'accord. Mais si tu pars de ce principe-là et que tu continues à faire jouer le russe, tu vas mettre un doute dans la tête de, quoi qu'on dise, dans la
de
tête
Chevalier.
À Chevalier.
Et tu peux le
mais perdre. Et ça, c'est vraiment pas la bonne
mais
chose.
Mais Pascal, l'autre question que je te pose,
à part à Marseille, que tout le monde lui en a voulu, est-ce que Chevalier, à cause de lui, les matchs qui ont suivi, ça a été perdu?
Il n'est pas décisif dans les grands matchs, Pascal.
Non, mais heureusement, il vient d'arriver et Paris, vous connaissez.
Non, mais Pascal, moi, pour te répondre, il y a une fébrilité dans les buts quand il est là. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas ressenti avec Safonov les 2-3 matchs qu'il a fait. Ça, c'est la réalité. Mais c'est peut-être logique aussi. Mais moi, je vais te dire, c'est pas parce que Safonov va enchaîner et peut enchaîner quelques matchs prochainement que le doute va s'installer dans la tête de Chevalier. Ouais. Parce que le doute dans la tête de Chevalier, Pascal, il y est aujourd'hui. Je te le dis.
Ouais, je me rappelle d'une réflexion que tu as faite, Jérôme, en disant, et je le ressens, mais c'est terrible ça, c'est que les premiers matchs de Chevalier, quand tu le comparais dans le but avec Donnarumma, tu avais l'impression que c'était un junior par rapport à...
C'est Lionel Charbonnier qui le disait, il fait tout petit dans le but. C'est vrai que c'était...
Et qu'il prenait moins de place.
C'est vrai.
Et ça, c'est fou parce que...
C'est vrai, c'est
une impression visuelle. Demain, lorsqu'il sera très bon, il aura la même taille et le même poids et la même envergure.
Alors.
Le ressenti du spectateur ne sera pas le même.
Ouais. Aubin, quel est ton verdict dans ce procès ? Est-ce que tu donnes raison à Pascal et Jean-Michel ou à Jérôme alors ?
Malheureusement, j'ai pas été convaincu par les experts, par l'expert du poste.
Aïe, aïe, aïe.
Monsieur Olmeta, oui.
Donc c'est Jérôme qui remporte ce procès?
Et attendez, je termine pour mon verdict. Alors, les arguments de la défense étaient pas top. Selon ceux de Jérôme, par exemple.
Pardon?
En disant je vais t'expliquer. En disant oui, le gardien français, etc. Je te rappelle que Luis Enrique, c'est pas le sélectionneur de l'équipe de France. Hein. Depuis tout à l'heure, vous parlez des gardiens, personne ne parle de l'équipe. On ne parle pas de l'équipe, on ne parle pas de l'ambition de l'équipe. Et en vérité, le gardien doit s'inscrire dans cette ligne droite. Donc, moi, je donne raison à ceux qui prônent l'alternance entre ces deux gardiens et je me range de leur côté. Donc
c'est Jérôme qui gagne. Ok. Merci. Voilà. Merci, monsieur le juge. Merci, Aubin.
Je pense qu'on n'avait pas besoin de faire
quand tu veux
le 32-16.
Et pourquoi?
Allez, avec plaisir. Ouais. Putain, les gars.
Allez, salut, Aubin.
Eh ben, si.
Salut, Aubin.
Pascal et Jean-Michel, vous n'avez pas été convaincants. C'est Jérôme qui gagne.
Surtout le titulaire du poste, il a dit.
Allez, dans un instant.
Pascal,
allô, Jérôme.
On a les auditeurs qu'on mérite.
La condamnation du PSG. 61 millions d'euros à verser à Kylian Mbappé. On vous explique tout dans une seconde. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h46 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. Ça va être le Allô Jérôme avec Nico Pelletier dans un instant. Vous saurez tout sur l'affaire Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Dans un instant, on est avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron après 19h.
Ah, Benoît. Les bilans. Eh oui, le bilan de la première partie de saison de Ligue 1. Spécial club ce soir, les tops et les flops. Pascal a bossé, Jean-Michel aussi, toi aussi Jérôme. On vous attend en 32-16 pour participer à ce petit bilan de la première partie de saison. Mais tout de suite, c'est donc Allô Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
L'accusation est très claire. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuit, c'est impossible. Il a dit déjà, jamais je partais gratuit, comme tout le monde le m'a promis.
Allô Jérôme.
Le Conseil des Prud'hommes a donc condamné aujourd'hui le PSG à verser près de 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Une victoire pour le clan Mbappé, qui souhaite d'ailleurs que le PSG paye cette somme le plus rapidement possible. Décision avec exécution provisoire, ce qui signifie que le club va devoir payer immédiatement la somme, même s'il décidait de faire appel. On en parle avec Nico Pelletier, qui a suivi ce procès. Salut Nico.
Salut les amis, salut Nico.
Bon, raconte-nous cette journée alors.
Alors une journée qui a commencé à 13h avec la lecture du jugement du Conseil des Prud'hommes dans le 10e arrondissement de Paris. Les juges des Prud'hommes sont arrivés dans la salle. On a commencé à lire l'ensemble de la décision et donc c'est allé très rapidement parce que on est monté très haut dans les chiffres avec 36 millions d'euros par exemple pour la prime à la signature de Kylian Mbappé qui c'était des rappels de prime à la signature avec plusieurs milliers d'euros de salaire non dus par le PSG. Donc on arrive au total à 61 millions d'euros que le PSG doit verser à Kylian Mbappé dès la notification du jugement, donc ça sera dans les toutes prochaines heures. Et à partir de la notification du jugement, le PSG doit aussi afficher sur son site internet en une le jugement pendant un mois et il faut qu'il soit très visible sur le site internet.
Le clan Mbappé était satisfait. Hein.
Oui, le clan Mbappé était très satisfait. Ils ont très rapidement réagi à la sortie du tribunal et je vous propose d'écouter.
Ils sont satisfaits?
Bien sûr, 61 millions d'euros.
Ah, mais ils n'en demandaient pas beaucoup plus?
Ils en demandaient 263.
Ils doivent être déçus quand même.
Non, mais ils ont eu la principale demande, c'est-à-dire le remboursement des 55 millions d'euros dus par le PSG. Je vous propose d'écouter Delphine Vereden, l'avocate de Kylian Mbappé.
Ça fait donc 18 mois, effectivement, Kylian Mbappé réclame la même chose, le paiement de ses mois de salaire et de sa prime pour le travail qu'il avait effectué. C'est la troisième fois que c'est jugé. Les deux précédentes, le club indiquait qu'il ne voulait pas payer car il attendait une décision au prud'homme. Eh bien voilà, elle est là et en plus, le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, ce qui veut dire que le club doit payer dès à présent.
Delphine Vereden et qui sera en compagnie de Thomas Clay, invité de l'After en studio ce soir à partir de 22h pour revenir sur cette affaire. D'ailleurs, quelle est la position du PSG alors?
Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain dit prendre acte du jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes de Paris, qu'il exécutera tout en se réservant le droit de faire appel et ajoute que le club se tourne désormais vers l'avenir fondé sur l'unité et la réussite collective et souhaite aux joueurs, en parlant de Kylian Mbappé, le meilleur pour la suite de sa carrière.
Tiens, petite info que je vous glisse d'ailleurs, Ousmane Dembélé vient d'être élu trophée The Best, donc meilleur joueur FIFA de l'année, devant Kylian Mbappé
et Lamine Yamal. Voilà le podium des trophées The Best tombés aujourd'hui, les trophées organisés à Doha pour faire plaisir à Jean-Michel.
Il est devancé par ça, par un ami. Non, oui, donc,
alors, Nicolas.
Ah, vas-y.
Nicolas, dans les 61 millions, c'est les primes prévues par le par les, contrat.
Le prime et les salaires.
Salaire, c'est-à-dire l'exécution à la lettre de ce qu'il y avait dans les différents contrats.
Exactement, dans les contrats écrits. Par exemple, tu as 36 millions d'euros.
Oui, oui, dans le contrat écrit, oui. Oui,
ouais. Parce qu'il y a ce fameux accord oral que le PSG a mis en avant août 2023. Et donc, oui, tu as 36 millions d'euros, par exemple, pour te donner des exemples, Jean-Michel, à titre de rappel de troisième échéance de prime à la signature, 3 millions d'euros à titre de congé payé. Tu as aussi 1,7 million d'euros à titre de congé payé sur les mois de avril, mai et juin qui sont concernés par le non-paiement du salaire de Kylian Mbappé lorsqu'il était au PSG.
En fait, c'est Jean-Michel, c'est des montants moi ce que je sais aussi
qui sont sur les contrats, quoi.
C'est des montants qui sont sur les contrats que Kylian Mbappé à travers un mail aussi, alors il y a eu des audios, mais à travers un mail avait dit laisser si jamais il partait en effet libre de contrat comme ça a été
un
le cas.
Un mail ou un audio?
Non, il y a eu audio et un mail. Voilà, il y a eu un mail en août 2023, mais le mail, il est pas, tu sais, aujourd'hui la législation, du moins les lois, il faut absolument les faire valider par des hommes de loi. Voilà, c'est pas une preuve comme les audios, tu peux pas t'en servir. Donc en fait, ils ont mis ça en avant. Ouais. Bah, peu importe, après ils sont rentrés dans une procédure qui moi franchement me dépasse, que ça soit d'un côté comme
attends,
de l'autre.
Attends, Jérôme.
Oui.
Jérôme, il pensait que le mail, alors que tu es en train de me dire que tout le monde savait qu'il n'avait aucune valeur, certains au Paris Saint-Germain pensaient qu'il avait une valeur?
Bah, je pense en effet. Après, je pense qu'ils ont. Alors moi, je suis pas à place des dirigeants parisiens et qui a essayé de faire signer un accord que juridiquement ça a une importance. Moi, je dis juste que Jean-Michel, je dis juste que aujourd'hui, mais que ça soit n'importe quel, on est dans une société aujourd'hui, t'es obligé d'avoir des écrits bien tamponnés pour.
C'est ce qu'on a dit dès le départ.
Sauf que moi, j'ai connu aussi un football, et certainement toi aussi Jean-Michel et aussi Pascal, où la parole était aussi sacrée, que ça soit des dirigeants et des joueurs. Moi, je dis pas que attention,
61 millions d'euros peut-être.
Moi, je dis pas que Mbappé est totalement en tort, le PSG est aussi en tort. La preuve, c'est que de toute façon, ils sont amenés à verser les salaires et les primes qu'ils ont bloquées. Voilà, donc ça va se régler. Moi, ce qui me dépasse plus, c'est en effet quand j'entends les conseils de Kylian Mbappé et ça tombe bien parce que Delphine Vereden va venir ce soir dans l'after. Donc moi j'espère qu'elle aura un autre état d'esprit et surtout d'autres paroles, parce que franchement c'est pas le football que j'aime. Quand elle parle comme ça, c'est une dame qui malheureusement
se rend même pas compte
des sommes qu'elle met en avant et de la façon dont elle parle.
C'est une avocate, voilà. Jérôme,
non mais d'accord, mais moi ce qui me choque le plus, c'est pour ça, pas les 61 millions, parce que s'il les récupère, tant mieux pour lui, et qu'il en gagne encore plus, tant mieux pour lui. Moi, je suis pas aigri, je suis pas jaloux, pas tout ce que tu veux. C'est juste la première somme qu'il demande. Quand je vois que là, elle prend le micro et dit ah ben enfin, ça fait quelques mois qu'on réclame ces sommes-là.
Mais après,
et
c'était
enfin,
le surenchère.
Ouais, 250 millions.
Je crois que le Paris Saint-Germain demandait 300. Ben oui. Et qui dit mieux 350. Et qui dit mieux 400, voilà,
Et ben moi, je trouve ça totalement.
Faut pas se laisser prendre à ce jeu.
Non, mais que ça soit d'un côté comme de l'autre, Jean-Michel. Le seul souci à ça, c'est que je trouve ça désastreux. Tout ce qu'ils nous ont montré depuis des mois, de toute façon, d'un côté comme de l'autre. Quand tu vois que c'est quand même un joueur, certainement le joueur le plus important qui a joué le plus fort, qui a joué au Paris Saint-Germain.
C'est le meilleur buteur de
l'histoire du club. Et de voir comment ça se finit, mais je trouve ça complètement dramatique. Je trouve ça dramatique.
Comme ça, c'est très triste.
Mais c'est plus que triste, Benoît. Moi, je suis un passionné de foot, j'aime les clubs. Quand on joue dans des clubs, on joue avec un maillot, on joue avec le respect de ce maillot-là, pour faire vibrer, pour vivre des moments incroyables sur le terrain, tu vis de ta passion, mais aussi pour communier ça avec les gens qui aiment le club. Et à l'arrivée, depuis des mois et des mois, c'est que ces affaires-là qui ressortent.
Après, il réclamait son dû, il n'a pas été payé sur les derniers mois.
Mais non, mais encore une fois, attention, quand je te dis ça, je j'accuse pas que Kylian Mbappé et le clan. Je dis juste que de toute façon, en effet, les sommes qui sont mises en avant, ça crée des monstres.
Alors,
ça crée des monstres. Dans tous les cas, c'est la réalité.
Comment
et que à travers ces monstres qui ont été créés, eh ben, on arrive, on ne parle plus de football, on ne parle plus de passion, on parle que de business, que d'argent, de gros sous. Voilà. Et ça me dérange. Et ce soir encore, il y a l'avocat de monsieur Mbappé qui va venir nous donner des leçons sur le football, sur la façon.
Après, c'est
et
ça, bien je suis désolé. Éclairage.
Ouais, un éclairage de quoi? C'est bon. Il a eu son dû. Qu'est-ce que tu viens dire? Voilà, 61 millions. C'est dommage d'avoir mis des mois à régler cette affaire-là.
Un jour, si tu es défendu par un avocat qui ne fait pas son boulot, moi, tu vas lui ruer dans les brancards et tu vas lui enlever l'affaire. Moi, concernant l'avocat de Mbappé, comme les avocats du Paris Saint-Germain, ils font leur boulot, Jérôme. Tu mélanges quelque chose qui n'a rien à voir. C'est leur boulot de défendre leurs clients, ceux du Paris Saint-Germain.
C'était leur boulot de demander donc une requalification CDI,
boulot,
de harcèlement moral, de préjudice d'image. Tu te rends compte tous les termes qui ont été utilisés. Après, je dis pas que le PSG n'est pas fautif. Attention, le PSG a fait des choses qui ne sont pas bien et ils doivent les assumer. La preuve, c'est qu'ils vont payer. Mais quand tu arrives à des termes comme ça,
partir du moment où ils sont partis dans ce genre de procédure plus exactement, et tu savais qu'à un moment ou un autre...
Ah, t'es obligé d'en arriver là.
Ils ne sont pas allés en prison pour autant, Jérôme.
Mais non, mais...
Je sais pas.
Les termes employés sont choquants.
Tout le monde a le droit d'être défendu. Tout le monde a le droit d'être défendu, et les avocats, que je sache, ceux du Paris Saint-Germain comme ceux de Kylian Mbappé ont fait les choses comme ils l'entendaient. Ils n'étaient pas hors la loi dans ce qu'ils
ont dit. Mais c'est ça qui me dépasse.
C'est ça qui me dépasse.
C'est que, alors après, attention, on n'a pas encore entendu les avocats du Paris Saint-Germain.
Non.
Mais peut-être
non,
mais que. Mais ce qu'ils vont dire va peut-être se choquer aussi, autant.
Et il faudra appel s'ils ont le droit. Et s'ils ont le droit, ils feront appel, c'est normal.
Mais il manquerait plus qu'ils fassent appel. Non mais j'espère juste que le PSG, là, moi, un conseil à donner.
Ce n'est pas si avantageux de faire appel.
Jean-Michel tout à l'heure et Pascal et Benoît que j'avais peut-être une info là-dessus, c'est que je pense, alors j'essaye de lire entre les lignes, je pense que le PSG ne va pas faire appel. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire appel parce qu'il manquerait plus que ça qu'ils fassent appel. Des sommes que de toute façon, ils doivent à Kylian Mbappé, c'est les premiers à le reconnaître.
On est au moins d'accord.
Manquerait plus qu'il fasse appel.
Mais est-ce que vous vous rendez compte le mal, cette histoire, le mal qu'il fait au football?
C'est clair. Mais c'est pour ça que ça m'énerve.
Pourquoi entre le club, il fallait qu'il paye. Il le savait, il fallait qu'il paye. C'était indu.
Ils sont mis en faute.
C'est écrit. Ils se sont mis en faute. Il fallait qu'il soit un grand bonhomme, qu'il paye, mais que ça reste en huis clos. Que ça sorte pas.
On
impose en plus de mettre ça à la une pendant un mois.
Mais c'est normal parce que c'est allé trop loin.
Sur les réseaux. Mais
sur le site officiel du club, si, il faut qu'il y ait la décision de justice pendant un mois.
Moi, je serais eux, je le mettrais autour du parc.
Les
affichages autour du parc, je te jure. Franchement, j'ai pas que ça à faire, parce qu'il y a les vacances de Noël. Je profite avec la famille. Mais si j'avais du temps à perdre, je mettrais des grosses banderoles. Je dirais, voilà, je raconte exactement ce qui s'est passé et le dû, les 61 millions. Non, mais franchement, c'est risible. Mais comme tu dis, Pascal, je suis entièrement d'accord avec toi, ton analyse. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour le football, côté comme de l'autre, mais ça me dépasse moi, franchement, ça me dépasse. Et on continue les avocats ils parlent et voilà, et puis demain ça va être les avocats du PSG, ils vont remettre une couche, le mec il a mis combien de buts au PSG,
donc le rendez-vous
combien de buts au PSG,
250,
t'imagines, on parle comme ça d'un mec qui a marqué 250 buts au PSG, non mais fou, c'est fou.
Allez, les avocats de Kylian Mbappé, les avocats, pardon, à retrouver ce soir dans l'After 22h, Delphine Verreden, Thomas Clé. Merci à Nico Pelletier qui est venu. Toutes les infos sur ce dossier sur rmcsport.fr dans un instant. Le bilan de la première partie de saison de Ligue 1, on analyse des clubs ce soir avec Jean-Michel, Jérôme et Pascal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.